Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne au micro de Radio Campus 106.6 FM, www.campusville.com et en DAB+ sur la métropole lilloise. Et nous allons parler maintenant d'une structure qui permet à des personnes, des étudiants qui viennent de l'étranger, d'apprendre le français avant d'être basculés dans leur univers universitaire de leur formation. C'est un petit peu ce que j'ai retenu des missions du Centre de langue de l'Université de Lille. Et tout d'abord, Madame Rivens, qui est la directrice de ce CLIL. Je vous salue, bonjour.
Bonjour.
Donc, est-ce que c'est un peu ça la mission?
Oui, un petit peu élargie malgré tout, parce que le volet accueil des étudiants internationaux est une des missions du CLIL, mais on a aussi une mission transversale d'enseignement, apprentissage des langues étrangères en général. Donc, on en propose 22 aux étudiants. Donc, ça va de l'anglais, bien sûr, italien, espagnol, les langues auxquelles on est déjà habitué dans le secondaire, mais on propose aussi des langues plus rares, comme le danois, le grec, le persan, le polonais, le portugais, je ne vais pas toutes les citer, la langue des signes française. Donc on a vraiment une palette large de contenu à proposer. Donc en fait, rappeler brièvement, le CLIL, donc le Centre de langue de l'Université de Lille, résulte de la fusion des universités et donc existe depuis le mois de septembre 2018 en tant que CLIL, en tant que service commun, où sont affectés plus d'une centaine d'enseignants qui ont pour mission d'enseigner alors les langues vivantes étrangères, le français langue étrangère comme vous l'avez mentionné, et aussi les techniques d'expression et de communication au public étudiant. Dans les langues, on a aussi une mission formation, ce qu'on appelle maintenant, on parle de formation tout au long de la vie, la FTLV, mais donc on a un volet, on coordonne les enseignements aussi pour la formation continue pour les langues. Voilà, donc en gros, nos missions d'enseignement. Et puis, donc, on a deux pôles, le pôle des langues et mon collègue Jean-François Boutier, qui en est le directeur, pourra en parler plus spécifiquement, ainsi que des centres de ressources en langue, où on propose des ressources pour accompagner la formation et proposer des dispositifs un petit peu innovants pour montrer que les langues, ça ne s'apprend pas qu'en salle de classe, mais ça s'apprend aussi au quotidien. Et on essaye de montrer, de faire des liens entre les contenus d'enseignement et les langues qu'on peut croiser et parler à tout instant, finalement. Donc, on essaye de montrer ça avec des cafés langues, il vous en dira plus. Mm-hmm. Et puis, le pôle défi, donc, dont la directrice est Marie-Pascale Amez, mm-hmm. Qui pourra aussi développer sur l'accueil des étudiants internationaux. Et on a les centres de ressources et on a aussi les certifications. Donc, c'est-à-dire, on propose une certification phare, c'est le CLES, la certification en langue de l'enseignement supérieur, qui est proposée dans plus de 8 ou 9 langues, 9 langues aux étudiants. Et l'Université de Lille, en service public, prend en charge pour chaque étudiant, chaque année, une passation. C'est un plus sur le CV, une certification qui est basée sur le cadre européen commun de référence en langue, avec des niveaux. Bon, tout étudiant maintenant qui vient du secondaire connaît ces niveaux A, B, C, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et donc, ça permet d'attester d'un niveau, on ne parle plus d'anglais lu, parlé, écrit, mais des choses un petit peu plus détaillées avec un cadre qui permet vraiment de savoir ce que l'étudiant sait faire. Voilà, donc on a des facettes quand même vraiment plurielles. Mmh, mmh. Et donc on essaie de coordonner, on coordonne tout ça sur deux campus principalement, donc ici à Cité Scientifique où se trouve la direction du CLIL, et sur Pont-de-Bois où se trouve, de toute façon sur chaque antenne on a un service de proximité pour recevoir les étudiants. Et puis, Moulin-Ranchin-Santé, on ne fait que coordonner. On n'est pas en charge des services des enseignants. Mais donc, on touche un petit peu vraiment à tous les publics qui sont étudiants à l'université.
Alors, je parlais tout à l'heure de l'apprentissage du français parce qu'on a beaucoup travaillé, nous, à Radio Campus, avec la Maison des langues, mm-hmm. qui avait ce nom à une certaine époque. Et on a accueilli beaucoup d'étudiants étrangers. aussi dans cette émission ou dans d'autres, pour justement les mettre en situation de réaliser par la pratique de la langue des sujets qu'ils ont. Voilà. Et donc, effectivement, il y a tout le reste de ces formations aux langues dont, on va dire, la palette est très importante dans l'Université de Lille. Qu'est-ce qu'on peut donner comme indication quant à la nécessité d'apprendre les langues, et notamment sur le retard qu'on aurait, paraît-il, en France, sur d'autres pays où c'est évident qu'il faut apprendre plusieurs langues, j'allais dire presque dès la naissance. Comment on peut voir les choses ?
Alors, il est de bon ton de dire que les Français sont mauvais en langue, que ça ne se passe pas bien, l'enseignement des langues, etc. Donc, je pense que, justement, parler d'une approche par compétence, telle qu'on le prône, justement, grâce au niveau dont je viens de vous parler, on décline ça en compétences compréhension orale, expression écrite, etc. Mais aussi interaction, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup de place maintenant à l'interaction. Et c'est justement ce qu'on essaye de développer dans les centres de ressources, mais aussi dans des ateliers en complément des cours, c'est de favoriser les interactions. Parce que je pense que le gros problème qu'on a, je me tourne vers mes collègues, c'est que on a des classes surchargées. Et si on fait le compte du temps de parole de l'étudiant, ou même avant, dans le secondaire, finalement, il a le temps de parler une ou deux minutes par cours, et encore.
Alors, Monsieur Broutier, donc, pour ce centre de ressources en langue, est-ce qu'il y a des technologies ? Enfin, depuis quelques années, j'avais vu ça. Enfin, est-ce que ça s'est développé ? L'histoire du matériel qui permet d'avoir, par rapport à sa langue, au-delà du professeur, des conseils de correction pour la prononciation, est-ce qu'il y a aussi pour s'évaluer ? Est-ce que vous utilisez tout ça dans vos formations ? Et votre centre de ressources dispose du matériel nécessaire, de labo ? Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Alors, en effet, il faut distinguer les labos de langue qui sont présents depuis les années 70-80 à peu près dans l'ensemble des campus, des centres de ressources en langue qui sont nés dans les années fin des années 90 et surtout début des années 2000, qui ont tout de suite proposé de la technologie, comme vous dites, qui ont attiré des étudiants aussi pour cette technologie. Aujourd'hui, les étudiants viennent dans nos centres de ressources en langue surtout pour les ressources humaines plutôt que pour les ressources multimédia qui s'y trouvent encore et toujours, bien évidemment. Mais je voulais juste dire sur ce point que nous avons une application qui s'intitule Calao, qui est accessible à tous les étudiants de l'Université de Lille dans le cadre de leur environnement numérique de travail. Et que cette application, c'est le CRL virtuel, on va dire aujourd'hui, qu'on retrouve aussi bien de chez soi que depuis les 5 CRL sur nos différents campus. Alors, en ce qui concerne les ressources humaines, en fait, les actions les plus plébiscité par les étudiants sont les actions de tutorat. Nous avons des permanences de tuteurs dans nos 22 langues, pas sur tous les CRL évidemment, mais qui sont ouvertes à tous en tout cas. Et puis sur chaque CRL, il y a des tuteurs conseillers ou des tuteurs étudiants qui sont là pour donner des conseils ou pour animer des ateliers fléchés sur certaines filières, certaines formations, et qui sont également là pour donner un aspect un peu plus ludique à l'enseignement des langues sur la pause déjeuner. Nous avons également un dispositif tandem qui est hébergé dans nos CRL et qui a pour but de mettre en relation les étudiants internationaux dont vous parliez tout à l'heure avec les étudiants, on va dire, francophones qui sont désireux d'en apprendre plus sur la langue et la culture d'un autre pays, et qui s'engagent à donner de leur temps à des étudiants internationaux qui, eux aussi, s'engagent à aider les étudiants francophones dans leur langue et leur culture sur un semestre ou une année universitaire pour passer un véritable contrat d'apprentissage entre eux. Et donc, on accompagne tous ces dispositifs au sein des CRL qui sont eux-mêmes ensuite utilisés de différentes manières au sein des formations de l'ensemble du CLIL.
Alors, vous parliez de personnes plutôt que de technologies, sans les opposer, faire justement un ensemble cohérent et j'allais dire fonctionnel d'une certaine manière, avec aussi le relais des étudiants, et tout cela pour favoriser au travers aussi d'échanges humains, parce que l'humain, c'est important dans vos métiers, c'est bien ce que j'ai compris, l'apprentissage. Est-ce que l'humain ou la relation à l'autre, avec des personnes devant nous, ça aide des gens à pratiquer la langue et à l'intégrer?
Il y a un mot-clé qui serait interaction, qui est effectivement au cœur de nos enseignements et nos pratiques, et qui est au cœur aussi de ce que vont faire, de ce qui va se passer dans un cours de langue et en dehors d'un cours de langue. Et ces interactions sont essentielles puisqu'elles sont la suite d'activités de compréhension qui peuvent être faites à distance et d'activités de production qui travaillent davantage l'écrit ou l'oral, mais de manière un peu plus monologale, on va dire. Les interactions sont effectivement ce qu'il y a de plus difficile à mettre en œuvre au sein d'un cours de langue, puisque le temps est limité, comme vous le savez, et les dispositifs qui sont présents au sein du CLIL sont vraiment là pour apporter une plus-value à tout ce qui va se construire dans les parcours d'apprentissage des étudiants et d'apporter un soutien à la fois matériel, mais aussi humain, comme vous le disiez, pour aller plus loin dans ces échanges et ouvrir d'autres horizons à nos étudiants.
Qu'importe les examens, enfin les évaluations d'une certaine manière, comme le TOEFL ou le Cambridge, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs? Est-ce que c'est une orientation de plus en plus fréquente de faire qu'il y ait un challenge à ce niveau-là auprès des étudiants pour dire de les engager, aller toujours plus loin vers des niveaux?
Oui, alors vous pointez là deux certifications du secteur privé qu'avait pointé le Premier ministre dans un discours dont on se souviendra. Comme Annick Rivens vous l'a annoncé tout à l'heure, nous prenons le service public avec une certification en langue de l'enseignement supérieur qui est accréditée par le ministère de l'enseignement supérieur au même titre que les diplômes de grade, de licence, de master et de doctorat. Alors, les certifications sont un véritable plus pour le CV d'un étudiant. Maintenant, la question de savoir se positionner par rapport à une certification du marché, c'est-à-dire une certification du secteur privé ou une certification du service public, j'ai envie de dire que tout va dépendre du projet professionnel de l'étudiant et que il va y avoir des besoins divers et variés selon certains métiers, certaines niches parfois aussi. Ici au CLIL, en dehors de la certification CLES, nous avons un bureau des certifications qui propose également le DELE, qui est la certification de langue espagnole de l'Institut Cervantes. On propose le TOEIC, qui est une certification d'ETS globale, le Goethe Certificat, qui est la certification du Goethe Institute, et le CNAVT, qui est le certificat de langue néerlandaise des Pays-Bas. Donc toutes ces certifications sont aujourd'hui en réseau. Nous n'en proposons pas d'autres pour le moment, mais pourquoi pas. L'idée, pour revenir au CLES, c'était de proposer une alternative du service public à ces certifications du marché, dont le coût peut parfois atteindre 250 à 300 euros la passation. Donc à côté de cela, la certification en langue de l'enseignement supérieur est-elle pleinement en adéquation avec nos enseignements et avec les courants méthodologiques en cours en ce moment en Europe?
Voilà. Donc la question maintenant, c'est à quoi ça sert d'apprendre une langue à part sa beauté et la culture qu'elle peut sous-tendre?
Alors, pour nous, l'enseignement des langues ne sabote pas la culture qu'elle peut sous-tendre. Au contraire, on enseigne les langues cultures, les langues et les cultures. Et chaque langue est intimement liée, comme c'est le cas d'ailleurs dans l'enseignement secondaire, à un objectif culturel, avec le développement également de compétences interculturelles, c'est-à-dire, pour revenir à l'humain, être dans l'échange.
Alors, on va maintenant voir le côté peut-être nouveau, c'est la mondialisation, et en quoi maîtriser une, voire plusieurs langues étrangères, ça peut permettre d'échanger à l'échelon de la planète pour des projets divers. Et peut-être qu'on peut demander à Madame Hamez donc, de voir en quoi le français à l'international, par des étudiants qui arrivent se former au français pour leurs études qui ne sont pas forcément le français directement, ça peut, dans le cadre d'échanges aussi, avoir des effets d'élargissement de la connaissance de la culture française et aussi des échanges qui peuvent être faits entre la France et d'autres pays du monde et aussi dans le domaine économique peut-être.
Oui, tout à fait. Alors, le défi joue deux grands rôles dans l'université. D'abord, celui de facilitateur d'accès à l'enseignement supérieur parce que nous proposons à plus de 1000 étudiants sur deux semestres universitaires une formation de 200 heures par semestre pour leur permettre d'accéder ensuite aux composantes de l'Université de Lille. Nous nous intéressons aussi aux 700 étudiants qui sont en programme d'échange, donc déjà inscrits dans les filières de l'université, pour leur proposer des cours dans les UE de langue de français sur objectif universitaire. Alors la majorité des étudiants que nous recevons, certes, vont continuer un cursus en France, dans une université ou une grande école, mais ceux qui ne vont pas forcément suivre ces études et qui viennent au défi pour suivre un semestre ou deux semestres et ensuite repartir dans leur pays d'origine, sont des véritables vecteurs d'influence. Ils seront les ambassadeurs de la culture française dans leur pays et aussi ceux de la région Hauts-de-France.
La francophonie, c'est forcément une de vos missions ?
La francophonie fait partie de nos missions. Notre mission première est celle d'intégrer les étudiants dans l'enseignement supérieur français. Mais la francophonie reste aussi une de nos missions.
Donc voilà, en France, donc heureusement qu'il y a ces lieux qui permettent une certaine forme de sas entre l'origine de ces étudiants et puis leur intégration à la vie universitaire et à leurs études.
Mmh. Oui, tout à fait.
Donc est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes que vous accueillez chaque année ?
Le nombre de personnes par semestre, tout à l'heure je parlais de 1000 étudiants à l'année, on peut compter 500 étudiants en programme d'échange pour l'Université de Lille, mais 500 étudiants qui ont fait le souhait de suivre nos cours. D'autres étudiants internationaux ont un niveau suffisant pour se passer de cours. Donc 500 étudiants en programme d'échange et plus de 200 étudiants viennent au défi pour suivre 15 heures de cours de français par semaine.
Est-ce que ça, c'est prévu au départ dans des échanges avec d'autres universités, des partenariats entre l'Université de Lille et d'autres universités, c'est déjà intégré ?
Oui, c'est déjà intégré, tout à fait. Travaillons en collaboration étroite avec le service relations internationales.
Mmh. Est-ce que déjà dans leurs universités d'origine, ils ont un apprentissage minimal du français ou pas ?
Dans certains pays, oui. Mmh. En Chine, par exemple, ils bénéficient de 500 heures de français avant leur départ.
D'accord. Donc, ce qui veut dire que quand vous les accueillez, ce n'est pas à la rentrée, c'est à d'autres moments où ils ont le temps, justement, de se préparer à la rentrée.
Oui, pour un certain nombre. Mais nous accueillons également des débutants complets.
D'accord. Donc, vous pouvez presque intégrer des personnes à n'importe quel moment de l'année.
Quel moment de l'année, non. Seulement pendant les rentrées universitaires.
D'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous auriez, j'allais dire, pour l'an prochain, je vous parle à tous, hein, un vœu à formuler, et c'est peut-être le moment, Noël, Nouvel An, enfin voilà.
Un vœu à formuler, je pense que nous souhaiterions davantage de postes d'enseignants et de postes d'administratifs pour le CLIL.
Toujours plus d'échanges peut-être, et puis on invite les étudiants qui nous écoutent à nous rejoindre au Café Langue, qui est le meilleur moyen de s'apercevoir du lien entre les langues et les cultures, qui se déroule sur différents campus. On va parler du campus Pont-de-Bois avec les Café Langue tous les mercredis après-midi de 15h à 18h à la cafétéria Ulysse du Défi, et puis les Café Langue du campus Cité Scientifique le 12 février prochain. On vous attend nombreux à 18h30 à l'espace culture.
Madame Evans, une conclusion ?
Oui, alors je vais continuer dans les vœux. On est très fiers de pouvoir proposer 22 langues aux étudiants et on veut pouvoir défendre le plurilinguisme et s'assurer de pouvoir élargir cette offre et toucher le plus d'étudiants possible, parce que c'est vraiment dans la diversité qu'on peut s'enrichir et grandir et découvrir les langues et les cultures.
Voilà, c'est à Radio Campus, forcément, c'est aussi notre souhait et notre objectif. Merci beaucoup, très bonne journée.
Merci.
Merci.